la conspiración.
Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Une radio que vous écoutez sur le 92.1 si vous êtes encore en FM et sur radiocampus.be si vous nous écoutez sur Internet ou par tout autre moyen plus numérique, on dira. On est aussi en DAB. C'est très bien pour écouter aussi La Conspiration des Planches, notre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Et on est ensemble évidemment pendant une demi-heure pour faire le tour de l'actualité des scènes bruxelloises. Avec un petit air carolo, puisqu'on ira voir ce que nous réserve la Biennale Charleroi Danse à Bruxelles, mais on peut aussi aller à Charleroi. Elisabeth est déjà en train de faire quelques entrechats et arabesques dans le studio. Bonsoir Elisabeth.
Mais bonsoir à tous.
Et au téléphone, on retrouve Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
Alors Isabelle, c'est toi qui nous emmène danser à Charleroi Danse, là, cette biennale hein, qui nous amène plein de créations et de spectacles belges mais aussi étrangers. Et tu vas nous parler de deux spectacles que tu as vus mais qu'on pourra revoir un petit peu plus tard dans la saison, on va dire. Mais aussi nous donner un petit aperçu de l'ambiance de la biennale cette année.
Ben elle est particulièrement belle cette ambiance, elle est vraiment très très riche, les propositions que j'ai pu voir jusqu'à présent sont vraiment de grande qualité et de grande générosité, ce qui est vraiment quelque chose à souligner. J'ai pu notamment assister à Tarab, qui était une création collective en fait, donc les spectateurs étaient vraiment invités à participer complètement à 4 heures de danse et c'était d'une beauté absolue, c'était extraordinaire. Donc je dirais que cette biennale est vraiment basée sur la générosité et j'avais donc j'ai vu deux spectacles la semaine dernière en création à Liège et qui vont revenir à Bruxelles et qui sont vraiment à voir absolument. Il y a d'abord De toute façon, on est en 2012, de Lorraine d'Ambremont. Alors, Lorraine d'Ambremont, on la connaît pour son solo « Toujours trois quarts de face », qui était un solo qui est la première partie d'une trilogie « Mes années bagarres », où elle s'attaque un peu, où elle s'attache plutôt que s'attaquer mais à la masculinité, au virilisme, à la violence. Mmh. Et ici, dans toute façon, on est en 2012, elle s'est intéressée à ces joutes verbales sur le net, qui sont en fait, des invitations à la bagarre, très 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 violentes au niveau verbal. Et elle en fait le matériau musical de cette courte pièce, puisque ça dure 45-50 minutes. Donc ils sont trois au plateau, dont elle, et elle invente vraiment un langage chorégraphique basé sur le langage corporel de la bagarre, de cours de bagarre, je vais dire presque. Donc c'est millimétré, c'est hyper précis. Ce sont des corps en tension, des corps qui sont vraiment c'est au cordeau quoi. C'est une chorégraphie qui est vraiment millimétrée, mais qui n'empêche pas une certaine un certain humour à certains moments. Je divulguerai pas la fin, mais qui vaut son pesant de cacahuète. Et donc voilà, c'est un objet chorégraphique qui est vraiment très très intéressant parce qu'il est physiquement hyper investi, hyper bien travaillé. Musicalement, c'est donc la bande son, c'est donc ce sont des mots de bagarre, de colère. C'est jusqu'où on peut aller dans la colère et dans l'oubli de l'autre, en fait, la dénigration de l'autre. Et donc c'est vraiment une pièce chorégraphique très très intéressante, un petit ovni comme ça qui est accessible aux ados à partir de 14 ans, je dirais. Mmh. Et franchement, ça vaut la peine d'aller voir ce genre de danse avec des plus jeunes pour leur montrer que la danse, c'est pas simplement des tutus et des entrechats.
Ça fait longtemps qu'on ne sait plus ça. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vraiment... artistiquement très très intéressant et musicalement. Et puis un autre.
Attends, je vais quand même dire que la recommandation est prise et notée et qu'il faudra quand même patienter un petit peu puisqu'il faudra attendre au minimum ou en tout cas au plus tard pour le moment novembre prochain au Brigittine pour découvrir ce spectacle. Ce sera du c'est bien en 2025 de 19 au 22 c'est parce que j'avais la liste à l'envers du 19 au 22 novembre donc au Brigittine avant une tournée française et autre proposition une habituée de Charleroi Danse
une habituée de Charleroi Danse c'est Lara Barsac. Qui est artiste associée au Théâtre de Liège. C'est au Théâtre de Liège qu'elle a donc créé Cassia Undead. Et Cassia Undead, c'est... elle travaille beaucoup sur des matériaux historiques, Lara Barsac, et ici, elle a travaillé sur le personnage de Cassia de Constantinople, qui était une autrice donc moyenâgeuse byzantine. Elle crée de la musique notamment. C'était mystique aussi. La musique qui est toujours chantée dans certains rites orthodoxes d'ailleurs. Et elle s'est inspirée de cette compositrice pour. Et alors elle travaille toujours des thèmes qui lui sont personnels. Là, c'est plutôt le deuil. Mais on n'y voit pas grand-chose. Alors, je disais de toute façon, on est en 2012 de Lorraine d'Ambremont, que c'est un ovni quelque part. Ici, c'est un ovni, un objet important non identifié, ce Cassia Undead. Parce que c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. C'est-à-dire qu'il y a sur le plateau, qui est un plateau relativement nu au départ, à la fois des chanteurs et des danseurs. On ne sait pas qui vraiment est danseur, qui est chanteur. Donc il y a une partition qui au départ est physique, puis il va y avoir un morceau de... Il y a une chanteuse qui entre, qui livre un morceau comme ça de musique relativement mystique baroque comme ça. Et puis tout va s'enchaîner avec des... Pareil, c'est une composition corporelle, on ne sait pas très bien liée à quoi. Donc il y a de la mystique dans les corps aussi. Il y a un plaisir... Ça aussi, c'est très agréable, un plaisir de la danse pour les interprètes, qui est, on a l'impression de faire partie justement de ce une sorte de rite, je dirais, et c'est quelque chose de très doux. Donc il y a cette musique qui est là à plein de moments. Il y a quelqu'un qui fait aussi des arrangements musicaux, donc s'envoie au plateau, et puis des gestes. Et cette chorégraphie qui emporte.
On retrouve vraiment dans la patte de Lara Barsac qui aime travailler l'histoire, la mémoire, la poésie par le documentaire ou le documentaire par la poésie, j'irais, par le mouvement, qui réveille aussi un petit peu des choses oubliées, des personnages oubliés.
Oui, exactement. Mais là, il y a vraiment cette dimension poétique qui vient sans doute parce que c'est une proposition qu'elle a eue. Elle a discuté avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, je pense, qui lui a proposé de travailler sur cette compositrice. Et donc il y a vraiment une très grande importance de la part musicale des choses. Et donc je pense que ça injecte une part un peu mystique et musicale dans cette pièce. Qui est tout à fait dansé, qui est en mouvement. Mais c'est vrai que cette atmosphère mystique musicale rend toute sa poésie en fait au plateau et invite vraiment englobe la spectatrice ou le spectateur dans une énergie qui est douce. Voilà.
Cassia Undead, c'est à voir encore. Là aussi, rendez-vous au mois de novembre, du 4 au 7 novembre. Et ce sera aussi au Brigittine à Bruxelles avant un retour à Charleroi. Ce sera en mars 2026 également. Merci pour ces petites impressions, mais un petit coup d'œil sur ce qui nous reste à voir dans cette biennale.
Très rapidement. Alors ce soir, si on court très vite, il y a moyen de voir l'écho de Nacera Bellaza, qui a travaillé avec Valérie Dréville. Donc c'est du corps-voix et du danse-théâtre. C'est à 20h30, donc en courant à la raffinerie. À partir de demain, il y a Dame Buzzo, qui est...
De Nora Chipomi, qu'on connaît bien.
Voilà, et qui elle a travaillé sur les chibines, donc c'est des petits bars politiques, mais qui sont clandestins. Et elle a recréé un espace dans les halles de Schaerbeek, fait de plusieurs petits cubines. Donc, c'est un spectacle qui est déambulatoire, avec les huit interprètes qui déambulent également dans ces différents espaces. C'est une pièce relativement politique, mais c'est du 16 au 18 au Hall de Schaerbeek. Puis toujours, je vais garder ce qui se passe à Bruxelles, il y a Calix Sonetto qui présente Bruit marron, qui est une pièce pour six interprètes. C'est le lien entre l'univers de ce chorégraphe brésilien et la musique de Julius Eastman, qui était un noir gay, qui est vraiment mort dans l'indigence. Et c'est la rencontre de ces deux univers qui donne cette pièce qui est relativement politique aussi. Et puis enfin, le 18 octobre, la fin de la biennale, ce sera, mais à Charleroi cette fois-ci, Metin Varsten qui présentera son Delirious Night. Et alors ça, c'est, on peut voir un peu de, moi j'ai vu à Avignon cet été, un peu de ces fêtes des fous, ces gens qui dansaient jusqu'à devenir un peu fous, comme ça, voire tout à fait fous, à perdre la raison. Et pendant une heure, il y a une batterie sur scène et il y a ces danseurs qui dansent, qui ont le corps traversé à la fois de joie, de tristesse, d'abattement.
C'était passé au Kunst, hein, aussi.
C'était passé au Kunst.
Moi, ça m'avait un petit peu épuisé, je dois dire, mais voilà.
La batterie pendant une heure, à un moment, c'est effectivement assez fatigant.
Mais il y a cet objet de saturation un petit peu de l'espace sonore, hein, dans cette pièce, je trouve. Maintenant, c'est une expérience à traverser comme une nuit folle.
C'est vraiment comme une nuit de délire, exactement.
Voilà. Exactement. Et on rappelle que donc on a parlé des spectacles de cette biennale de Charleroi Danse qui se déroule à Bruxelles. Metteuk Varsen, ce sera à Charleroi, mais sachez que pour la plupart et quasiment tous les spectacles qui se déroulent à Charleroi, des navettes sont organisées par Charleroi Danse à partir de la gare du Midi pour pouvoir rejoindre la capitale du Pays Noir.
Et d'ailleurs, ce vendredi, il y a le Ballet de Lorraine qui donne deux pièces, une de Maud Le Pladec et une de Hélène Paroline, Savic Schott et Malen, et c'est aussi, il y a une navette qui est possible. Et on peut combiner même le spectacle Bruit marron à 17h à Bruxelles, sauter dans la navette et aller voir vendredi le spectacle de samedi. Et aller voir Délire le samedi. Voilà, c'est ça. Faire la clôture à Charleroi le samedi.
Beau marathon de danse donc, qui nous attend. Voilà. On parlera d'ailleurs un peu plus tard sur cette ubiquité qu'on peut avoir aujourd'hui grâce au transport, aux technologies. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Merci Isabelle de nous avoir planté le décor de cette biennale. Toutes les infos sur charleroi-danse.be. Et on se retrouve très bientôt.
Ben oui, et puis n'oubliez pas de danser parce qu'autrement on est foutu. Hein. Et c'est pas moi qui le dis.
Très bien, ben justement, un petit peu de musique peut-être pour danser. On se retrouve juste après ceci.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Oh, get it. Oh.
looking for a woman? Are you looking at fun? You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping on my door. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping on my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more.
Pour retenir Elisabeth pour pas qu'elle aboie dans le studio au son de Big Mama Thornton que l'on écoutait avec Hound Dog à l'instant sur Radio Campus et on est de retour dans la conspiration des planches. Alors pourquoi Big Mama Thornton? Parce qu'elle est une des héroïnes de Delphine Isaïe qui dans son spectacle Héroïne ben, nous retrace un petit peu l'histoire de ces rockeuses, de ces chanteuses, de ces musiciennes qui ont connu, on va dire, des destins assez particuliers, singuliers, d'abord par leur carrière artistique, mais des carrières aussi artistiques parfois un petit peu invisibilisées sur le contexte dans le contexte qui était sociologique, politique, économique de l'époque. Et elle retrace ainsi toute une histoire du rock au féminin. Et Big Mama Thornton est la première héroïne qu'elle évoque dans ce voyage. Alors pour la petite histoire, Big Mama Thornton est notamment avec ce titre Hound Dog qu'elle a sorti dans les années 50. C'est surtout quand le morceau a eu beaucoup de succès, surtout quand Elvis l'a repris par la suite, et très peu de gens savaient que c'était chanté par Big Mama Thornton, femme noire. Ouais. À l'époque, on s'imagine comme quoi aux États-Unis ça devait pas être facile, ou en tout cas, certains cercles nous étaient fermés à l'époque. Et c'est un peu dans ce voyage que va nous emmener Delphine Isaïe, donc je le disais, qu'on connaît pour être animatrice radio sur une radio musicale de la RTBF et qui aime dans ses émissions reparcourir cette histoire du rock. Eh bien, elle va nous raconter ces femmes qui l'ont marquée. Big Mama Thornton, on a Janis Joplin, Courtney Love, et à chaque fois sur base d'extraits musicaux, de vidéos, d'évocations de leur histoire, elle va nous dresser ainsi une histoire parallèle en fait et raviver nos mémoires. On passe partout par des destins qui ont connu l'invisibilisation, la drogue, la mise sur le carreau, aussi la stigmatisation. On parle de Courtney Love, femme de Kurt Cobain, qui a pendant des années été accusée d'avoir causé la mort de l'idole de Nirvana, et qui vient vraiment ainsi montrer que ces femmes, elles sont avant tout musiciennes, mais finalement leur carrière musicale, je vais pas dire qu'elle est passée en second plan au niveau public, mais en tout cas a été ombragée. Et c'est un peu leur rendre justice. Leur rendre justice ici, pour la mise en scène et en tout cas pour nous amener cette histoire, il y a un petit truc comme ça. C'est pas une conférence, c'est juste on est transporté dans un commissariat de police où Delphine Isaïe vient de se faire arrêter parce qu'elle a pété les plombs, et tout au long de cet interrogatoire, elle va ainsi énumérer ses héroïnes et nous expliquer qu'est-ce qui l'a amenée là. Et pourquoi... Oui, je t'en prie, Elisabeth.
Non, mais en fait, on est où?
On est au TTO. Dans la petite salle du TTO. Voilà. Oui, je ne l'ai pas dit encore.
Voilà. Non, mais c'est parce que tu dis Delphine Isaïe nous emmène, mais où?
Mais nous emmène dans son histoire et son histoire personnelle, parce que pourquoi... a-t-elle besoin de ses héroïnes? Pourquoi a-t-elle eu besoin de les raconter? Et pourquoi l'ont-elles construite, elle, et pas quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est parce que ce quelqu'un d'autre lui a manqué un moment dans sa vie. J'ai pas envie de tout dévoiler, mais à un moment, ce spectacle qui, au début, peut paraître parfois un petit peu didactique, très documentaire, mais qui est complètement incarné par Delphine Isaïe, qui joue la posture de rockeuse aussi au bon moment où la d'interprète en montant sur ce bureau de la police et en faisant passer la musique dans son corps, j'ai envie de dire, va tout à coup nous switcher dans une autre dimension, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle. Et c'est là qu'on va être vraiment profondément touché. En plus d'avoir été touché, on peut l'être aussi par les histoires de ces héroïnes.
Mais quels sont les moyens utilisés pour raconter ces histoires, pour nous emmener? Est-ce que tu parlais un peu de documentaire? Comment ça se passe sur scène, sur le plateau?
Alors, on est presque... Donc, on est dans la petite salle du TTO, assez étroite, avec quand même une certaine profondeur. Et pour cet hommage, on peut dire qu'elles ont fait comme dans une église, une chapelle du rock, comme ça, une sorte de triptyque avec des grandes bandes plastiques qui tombent du plafond et qui servent d'écran de projection pour nous immerger dans cette histoire du rock. Et c'est vrai, c'est bien de les entendre, mais de les voir aussi, parce que dans l'attitude, il y a énormément de choses qui se disent.
Ça déménage.
Voilà, voir Janis Joplin chanter en live, ou Debbie Harry au milieu de son groupe de mecs, de blondies, s'affirmer, parce qu'il y a un très bon passage justement sur Debbie Harry, où... Delphine Isaïe rejoue une sorte d'interview de Debbie Harry, et avant qu'on lui parle, que le journaliste lui pose la question, une question musicale, arrive toute une série de questions plus intimes. Et pourquoi vous n'avez pas d'enfants, et pourquoi vous n'êtes pas marié, pourquoi vous n'avez pas épousé machin, et comme ça. Et il y a un petit artifice comme ça qui est utilisé dans cette interview pour nous faire ouvrir les yeux en fait sur ça, et pour relire un peu ce qui s'est passé à l'époque sur ça.
Et on en sort galvanisé, la musique est présente.
Oui, galvanisé, ému, et c'est vrai qu'on a envie de redécouvrir toutes ces artistes. Je n'ai pas cité toutes celles qu'elle cite, et elle m'a dit que c'était compliqué de choisir, évidemment, dans ce catalogue, parce qu'elles sont nombreuses, ces héroïnes du rock, ces héroïnes de la musique. C'est mis en scène par Emmanuel Delherba, Delphine Isaïe écrit ce spectacle avec Valérie Muzzi, et c'est à découvrir encore jusqu'au 1er novembre au Little TTO, donc au Théâtre de la Toison d'Or, ttotheatre.com. Avec Isabelle, juste avant la pause, on parlait de voyage dans le temps, de voyage dans l'espace.
Ouais.
Eh bien, savez-vous que notre société... dans notre société, on peut souffrir, je ne sais pas si tu connaissais le terme, de frivolité géographique, Elisabeth.
Joli.
C'est ce que les comédiens de Géo Explosé, qui se joue en ce moment au Rideau de Bruxelles, nous invitent à explorer à travers un seul personnage qu'ils interprètent à trois et qui s'appelle Claude. Et Claude est phobique des transports. Déteste de prendre le bus, ne lui parlait pas de prendre un train, encore moins une voiture, un taxi, pied, et rester dans son petit coin, c'est le mieux qui puisse arriver à Claude. Mais évidemment, dans notre société aujourd'hui, où tout va très vite, où, comme on dit...
De plurimodalité.
Voilà, et on nous invite à nous déplacer aussi, on nous force à nous déplacer. Galia de Backer, qui a écrit ce spectacle, Elle est partie aussi d'une réflexion personnelle. Elle travaillait dans une ville, vivait dans une autre et avait sa famille dans une troisième ville. Et ce triangle géographique et temporel était parfois très difficile à vivre. Et elle s'est dit, mais comment en est-on arrivé là? Cette frivolité géographique qu'elle vient questionner, c'est-à-dire cette envie, cette obsession de vouloir bouger tout le temps dans ce monde de flux, qu'elle vient interroger à travers, on va dire, une palette très absurde, une palette très théâtrale très absurde, parce que c'est Claude qui sont sur scène, un trio. On a Simon Thomas, Antoine Cogneau et Ninon Pérez. Eh bien, vont nous emmener dans une expérience, c'est-à-dire que la veille de la situation, on se retrouve là, ils ont croisé une femme, une Allemande, sur un pont au-dessus d'une autoroute, et eux, déjà apeurés par le trafic qui se déroulait sous leurs pieds, eh bien, ont été interpellés par cette femme qui était complètement obnubilée par vouloir voyager, se réveiller à Londres, s'endormir à Tokyo, enfin, un petit peu dans ce style-là. Et eux, ça les a complètement perdus. perturbés. Ils sont presque en thérapie de voir pour pouvoir faire un pas en dehors de chez eux.
Et donc là, on voyage dans l'espace, ça on l'aura compris. On voyage aussi dans l'imaginaire avec trois personnages qui en fait n'en sont qu'un. Mais est-ce qu'on voyage aussi dans le temps? Est-ce qu'on remonte par exemple, comment c'était avant, vers où ça va? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui interviennent?
Alors oui, on va d'abord voyager, en tout cas on va nous inviter à imaginer le futur. Parce que le pari que font ces Claude, c'est de nous dire, mais tiens finalement, pourquoi ferait-on le pari dans le futur de la mobilité à tout prix et pourquoi on ne reviendrait pas justement à quelque chose de plus sédentaire? Et justement sédentaire parce que si on regarde une macro-ligne du temps et qu'on se replace à la dimension de l'histoire de l'humanité, ben on découvre que depuis que l'Homo sapiens est apparu, il a surtout été nomade et que c'est quelques dernières années qu'il est devenu sédentaire.
Voilà. À un moment donné.
Et pourquoi redeviendrait-on pas nomade finalement?
Mais en même temps, c'est ce qui est dénoncé au début du spectacle.
Voilà.
Il y a quelque chose d'une ambiguïté.
Et du coup, c'est là que l'absurde joue, c'est-à-dire que en nous emmenant dans les futurs possibles, et je dis les parce qu'il y aura à la fois un côté qui qualifie nihiliste, l'autre de pessimiste. Je vous laisserai apprécier la nuance sur pièce. C'est de voir finalement, justement, c'est que le temps et l'espace sont complètement remodelés à chaque fois et que le déplacement dans ces deux dimensions, finalement, ces deux dimensions très complexes, très perplexes aussi, ben, sont pleines de saveurs et à la fois de mouvements, mais aussi de choses loufoques, d'inventions et d'inventions dans l'imaginaire. Alors, ce spectacle, Galia de Backer qui a écrit, vient du jeune public et vient ici avec un premier texte, on va dire, plus adulte ou en tout cas comme ça, on ressent en tout cas une patte, je le disais, très absurde, très théâtre visuel aussi,
oui,
ça
sûr.
Bouge beaucoup c'est pas pour rien je crois qu'elle a choisi Simon Thomas qu'on connaît aussi par ses pièces aussi très gestuelles et visuelles dans des scénographies très travaillées. Antoine Cogneau offre aussi
Norman.
De quoi ? Oui, tout à fait. Voilà, oui. Norman. Et Antoine Cogneau qui amène aussi toute cette vivacité dans le jeu. Avec, en fait, c'est le même personnage, mais on va dire trois tons différents. Ouais. Et Ninon Pérez apporte encore une autre couleur là-dedans.
C'est une expérience théâtrale sympa.
C'est sympa. Dommage que ça n'a pas... je trouve que ça n'a pas vraiment au bout de sa réflexion et que ça a un petit peu mal à enrober le propos à la fin et ou à nous, pas nous faire la morale, loin de là, mais
ça pose question.
À avoir ouvert la question et peut-être pas assez de pistes de réponse pour moi. Mais voilà, ça s'appelle « J'ai explosé
oh. ».
Explosé dans le temps, dans l'espace, en bord de route. Bref, vous choisirez.
Pas tant que c'est pas en route, ça va.
Et c'est à découvrir jusqu'au 24 octobre au Rideau, lerideau.brussels, pour toutes les informations. Elisabeth, une petite info-compte?
Mais oui, bien sûr. Alors, le théâtre de la parole, ben pour mémoire, ça se trouve au Richeclair. Absolument pas. Au Rouge Cloître, au Rouge Cloître qui est particulièrement rouge en cette saison. Et il propose samedi 18, en fait, deux spectacles que je n'ai pas vus, mais je connais les conteurs, conteuses. Alors, pour les petits, à 15h, il y a Odile Burlet qui nous vient de France et qui a la particularité de mêler le conte et le clown. Donc, c'est généralement assez truculent. Et en soirée, donc j'ai pas l'heure, mais ça doit être vers 20h, j'imagine. On a le voyageur sans valise. Non, c'est à 19h, je pense. C'est un peu plus tôt. Et là, Pascal Guérand est en fait un conteur belgo-japonais qui a la particularité, je l'ai entendu des petits morceaux comme ça, qui a une manière de raconter assez classique, assez sobre, mais qui s'inspire de contes japonais, etc., qui sont assez chouettes aussi, qui a une formation de marionnettiste et tout ça. C'est vraiment quelqu'un de hyper formé. Et c'est toujours des chouettes rendez-vous et c'est vraiment la belle saison pour voir le Rouge Cloître.
C'est même si dit sale que Richeclair, hein, d'ailleurs.
Oui,
voilà.
Oui, mais bon, voilà.
Théâtredelaparole.be pour toutes les infos. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve
avec
très bientôt
plaisir.
Après une petite pause d'automne, comme ça. On se retrouve dans quelques semaines.
Tous au Rouge Cloître.